Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, le rendez-vous du livre et de l'écriture sur Espace 2 avec Jean-Michel Meyer, nous recevons l'auteur Quentin Mouron. Bonjour, soyez les bienvenus. Certains critiques considèrent déjà notre invité comme un écrivain appartenant à la nouvelle garde romande des lettres. Il faut dire que la Romandie, Quentin Mouron n'y est attaché qu'à moitié. Il est bien né à Lausanne il y a 23 ans, mais c'est au Québec qu'il a grandi. Lausanne, il y est revenu un peu plus tard, notamment pour entamer des études de lettres modernes. Son premier roman paru aux éditions Olivier Moratel l'année dernière a fait mouche dans le cœur de très nombreux lecteurs au point de fusion des égouts, tel est son titre. Son succès d'ailleurs perdure au-delà des mois écoulés au point qu'il a fallu en multiplier les rééditions. Et puis en cette rentrée littéraire d'automne, Quentin Mouron revient avec un deuxième roman qu'on ne saurait qualifier de second, Notre-Dame de la Merci. Court récit en forme de tragédie intime, encaissé dans les paysages enneigés du Québec. Et c'est de cette œuvre naissante, mais déjà bien affirmée, que nous parlerons aujourd'hui dans nos interlignes avec son auteur. Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
J'imagine que vous vous en souvenez, c'était le 13 décembre de l'année dernière. Vous étiez à ce même micro, en face de Christian Tchouka et Christine Gonzalez. C'était votre baptême de la radio.
Oui, j'allais justement employer le mot de baptême. C'est vrai que c'était, j'étais un peu plus nerveux qu'aujourd'hui. C'était la première fois que j'entrais à la RTS, donc c'était un challenge. Et puis c'est vrai que ça a suivi son cours. Les interviews se sont succédées. Et puis depuis, je suis un peu plus.
Vous êtes rodé à l'exercice médiatique.
Un peu plus rodé. C'est pas encore, Dieu merci, une habitude ni une routine. Donc c'est encore un plaisir à chaque fois. Mais c'est vrai que je m'y suis fait.
Comment vous vivez justement cette nécessité aujourd'hui de venir parler d'un livre dans les médias, que ce soit sur les plateaux de télé, devant un micro de radio, d'en parler aussi pour la presse écrite, qu'elle soit nationale, internationale. On peut lire des critiques de votre livre ou des interviews aussi dans le Nouvel Observateur, par exemple. Comment vous vivez ce que certains auteurs appelle avec un peu d'ironie dans la voix de le service après-vente?
Je sais que ça dérange plusieurs de mes confrères. Confrère est peut-être un mot un peu pédant. Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. C'est pas du tout je le prends pas du tout comme une obligation. Peut-être que c'en est une, mais enfin, de me déplacer, de rencontrer des gens, c'est pour moi naturel. C'est quelque chose que j'apprécie. Et puis c'est vrai, ce qui est peut-être plus déconcertant pour moi, c'est quand on commence, je le prends avec plaisir, mais un peu après coup, c'est quand on commence quand je suis dans la rue et qu'on me dit « Ah, c'est vous êtes Quentin Mouron, c'est vous qui avez écrit un livre. » C'est le début de la gloire, mais c'est vrai que c'est un peu plus déstabilisant. Tandis que là, on est à la radio dans une... c'est un endroit qui est quand même consacré pour parler du livre, donc je suis moins pris à défaut.
Nous parlerons de ce livre avec Jean-Michel Meyer, qui a beaucoup apprécié, comme moi d'ailleurs, nous l'avons lu tous les deux, Notre-Dame de la Merci, comme nous avons aussi apprécié le précédent roman Au point de fusion des égouts. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour, me venait à l'esprit en entendant votre question ce qu'avait dit un de nos précédents invités, Guy Poitry, qui écrivait que pour lui, écrire, c'est s'adresser, être entendu sans avoir à se montrer, ou parler sans avoir à se montrer.
C'est une autre génération.
C'est
aussi,
une autre génération. Est-ce que vous diriez la même chose? Quelle nuance vous apporteriez à cela?
Je dois dire que pour moi, et pour être très honnête, c'est plus difficile d'écrire que d'être invité à la radio. Je préfère parler de mon livre que de l'écrire.
Pour certains, c'est une douleur de parler dans un micro.
Pour moi, c'est le contraire. Alors, c'est tenir un stylo ou un clavier d'ordinateur, c'est pour moi assez pénible, et donc je préfère largement parler.
D'où le terme effort utilisé par votre éditeur. Ça, je sais que vous vouliez en parler, Jean-Marie.
Oui, parce que entre les lignes, on aime aussi lire les quatrièmes de couverture, même si je le précise, nous lisons l'intégralité des livres. Et sur la quatrième de Notre-Dame de la Merci, il y a cette petite phrase. J'imagine que c'est votre éditeur qui l'a concoctée. L'écriture de Quentin Mouron étonne par sa maîtrise et sa fraîcheur. L'auteur d'Au point des fusions des égouts confirme avec ce deuxième effort toute l'étendue de son talent. Ce mot effort, il est vraiment étrange et peut-être qu'il nécessite une explication. Vous nous disiez à l'instant, c'est vous qui l'avez soufflé à Olivier Moratel.
J'ai soufflé à Olivier Moratel. C'est un terme quand même assez courant, disons, dans le milieu de la musique qu'on retrouve assez souvent quand on parle d'un album de rock. J'ai utilisé comme ça, comme un synonyme, mais c'est vrai qu'il recouvre aussi une dimension. Ça n'a pas été facile d'écrire ce livre, le premier non plus, celui-là particulièrement. Et donc c'est vrai que je trouvais intéressant de le signaler comme ça, entre les lignes si j'ose dire, sur la quatrième de couverture.
Jean-Michel.
Oui, c'est peut-être la question qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'écrire un livre? Qu'est-ce que ça se passe où, cette difficulté, cette chose vers laquelle on tend et à laquelle... C'est quoi cette difficulté?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Quelque chose de très pragmatique d'une part, c'est de pouvoir trouver un moment pour s'y mettre. C'est pas quelque chose d'aussi romantique qu'on peut croire, quelque chose de comme ça. On peut penser que c'est quelque chose d'un peu sacré, l'écrivain qui se met à sa table, mais
on
c'est
parle
pas
de
du
l'inspiration aussi.
Voilà, de l'inspiration, mais c'est pas du tout ça. Souvent, j'ai des très belles phrases qui me sont venues en tendant le gazon, ou alors.
Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez la tondeuse?
Ah non, jamais. Non, je finis de tondre, mais après je vais écrire ces phrases. Donc c'est vraiment il y a quelque chose de difficile déjà dans à quel moment s'y mettre. Ça vient pas toujours au bon moment. Moi, des fois, je prévois plusieurs jours en me disant là, je vais écrire, j'écris rien. C'est même assez classique. Il y a des moments où j'ai absolument pas le temps d'écrire. Je suis dans quand j'étais dans le TGV pour Paris il y a pas longtemps, je devais aller faire un interview. Tout d'un coup, je me dis merde, il faut absolument qu'il y a des phrases qui viennent. Alors j'ai commencé à les noter,
mais
j'avais
pas
de cahier.
Qu'est-ce que c'est écrire? Qu'est-ce qui est différent de la parole? Est-ce que vous seriez tenté, par exemple, de vous enregistrer pour écrire?
J'ai tenté de le faire, mais j'ai horreur de ma voix, et puis ça a pas du tout marché. J'étais très gêné devant une espèce de magnétophone.
Donc c'est une autre voix que vous cherchez.
Oui, je pense qu'on peut parler d'autres voix, mais c'est vrai qu'elles se manifestent beaucoup plus difficilement que la parole. Je suis assez bavard. En revanche, j'écris des livres courts, j'écris peu, j'ai peu de... Je cause avec des écrivains qui me disent « j'ai plein de textes dans mes tiroirs, je peux reprendre celui-là ».
On entend ça souvent,
Voilà, exactement, j'ai plein de nouvelles, Moi, j'ai
vous
aucune
pas.
Nouvelle. Aucune.
Mais enfin, vous avez fait un bel effort, puisque en 2 ans, vous avez écrit 2 livres.
Oui, alors c'est vrai que quand j'écris, je m'y mets pour une... Mais c'est vrai que j'ai des textes que je publie sur mon blog, mais j'ai peu de réserves, disons.
Vous avez remarqué, peut-être, Quentin Mouron, j'ai essayé de prononcer 2 fois le titre de votre premier roman... Au point de fusion des égouts. Et chaque fois, je dis au point d'effusion des égouts.
C'est l'effusion. Oui, mais c'est vrai que c'est très sibyllin.
Eh ben voilà.
J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave.
Non, c'est une marque de déodorant, comme disait Kurt Cobain de son tube.
Alors, si on parlait de ce livre qui paraît aujourd'hui, puisqu'on a parlé longuement jusque-là, enfin, dans une précédente émission, d'au point d'effusion des égouts, Jean-Michel, quel a été votre plaisir de lecture de cette Notre-Dame de la Merci?
Alors, il a été très grand. Je n'avais lu ni l'un ni l'autre livre. Je les ai lus les uns l'un après l'autre. Et il a été multiplié par cette concomitance. Parce que on est dans des registres très différents. Et j'ai à chaque fois cette sensation que c'est pour ça que je vous posais ces questions. Comment il fait ce gamin? Comment il fait à 22 ans pour au point d'effusion des égouts, à 23 ans pour Notre-Dame de la Merci, pour écrire comme ça, pour mettre autant de vie, autant de... Je vais dire que des mots bêtes, mais c'est cette impression que c'est un écrivain, il y a une maîtrise. On en reparlera, parce que si vous me demandez de vous expliquer pourquoi j'ai aimé comme ça, vous voyez, ça sera très confus.
Mais vous êtes quand même en train de nous dire qu'à 23 ans, c'est dommage d'avoir autant de talent, c'est ça?
C'est agaçant. Je le déteste.
Bon, et à part ça?
Et à part ça, c'est vachement bien.
Ok, ben bon, on s'arrêtera là.
On m'a souvent dit ça.
Alors, ce qu'il faut souligner, Jean-Michel, c'est qu'entre le point d'effusion des égouts et cette Notre-Dame de la Merci, il y a quand même 2 registres très différents que l'auteur creuse, expérimente.
C'est ça qui est frappant. Le premier, Notre-Dame de la Merci, vous nuancerez ou corrigerez ce que je dis, c'est un récit, une sorte de récit initiatique d'un jeune homme qui part en Amérique et qui nous raconte ses rencontres, sa confrontation avec les mythes américains, son histoire d'amour. C'est un espèce de récit initiatique, road trip aussi, comme on dit, parce qu'il prend la voiture. Aux États-Unis, tout est très loin, donc on prend la voiture pour se rendre d'un point à un autre. Et l'écriture est très profuse. Et ce que l'on sent, c'est qu'il est porté, c'est que l'écriture est portée. Elle a quelque chose de chaotique, de fautif, mais très assumé. Je sais, Quentin Mouron, que vous aimez beaucoup Céline. On peut y penser en lisant ce texte-là, par cette manière de malmener la langue écrite, d'y ramener de l'oralité, mais c'est pas du parler, c'est de la musique, c'est un texte qui avance. Je me suis amusé à l'écouter, sachant que vous aimez beaucoup Coltrane, à l'écouter, en écoutant écoutant Coltrane en même temps, c'est une musique qui swing. Il y a aussi là quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre chez un certain nombre d'écrivains américains. Ça, c'est une question qui va pouvoir me permettre de sortir du tunnel dans lequel je viens de m'enfoncer. Est-ce que la culture américaine que vous avez, la lecture d'auteurs américains, c'est quelque chose aussi qui a peut-être transformé ou influencé votre rapport à l'écriture en français?
J'ai peu lu d'auteurs américains. Par contre, quand je les ai lus, je me suis rendu compte, et à ma grande surprise, que j'étais quand même très américain et très marqué par la culture américaine. Quand j'ai lu Bukowski, par exemple, je pense à Hammon Rye qui se passe dans des écoles américaines quand lui est gamin. C'est une espèce de autofiction, peut-être un peu dépréciateur, mais en tout cas, c'est un roman en jeu qui se passe dans une école. Et je sentais énormément de choses que peut-être des lecteurs européens n'auraient pas pu sentir. C'est-à-dire vraiment, sur des détails, ce côté américain, nord-américain, je le sentais très fortement. Et je pense que ça s'est exprimé au moment de prendre la plume. J'ai peu, encore une fois, de références d'écrivains américains. Je connais très mal la littérature américaine. Je l'ai découverte, en fait, dans le texte. Parce que quand j'étais aux États-Unis, je voulais lire en anglais parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas tout lire en anglais parce que mon anglais est mauvais. Donc j'ai dû lire des auteurs comme Bukowski, John Fante, où une fois qu'on a assimilé quelques synonymes d'alcool et de beat, on arrive à se débrouiller. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à la littérature américaine. Et je pense que j'en ai ressorti quelque chose pour l'écriture du premier livre et même du deuxième, peut-être de manière un peu plus voilée.
Alors le second est beaucoup moins, on pourrait dire que le premier a quelque chose de baroque dans la construction. Il serait difficile d'expliquer comment il est construit. Et alors on arrive au second livre, celui qui sort donc maintenant, Notre-Dame de la Merci. Donc le cadre est complètement différent, il ne s'agit plus de voyage, c'est exactement le contraire. C'est un livre dans la neige, dans un petit village sédentaire, en plus un village que vous connaissez parce que vous y avez vécu. Et c'est construit d'une manière extrêmement classique, précise, avec une prose calmée. Si je devais citer des références qui me viennent à l'esprit, ce serait beaucoup plus Ramu, avec par exemple cette histoire de suicide. Ce sont pas des paysans, hein, vos personnages. C'est rural dans le sens où on est dans un village. Ce sont pas des paysans, mais Ramu a écrit notamment des nouvelles où il parlait du suicide des paysans. Ou alors pour cette atmosphère de brouillard, de grisaille, pour le côté sordide, quelqu'un comme Simenon. Et on a un livre qui est structuré en 5 chapitres, comme 5 actes d'une tragédie, avec un prologue, donc extrêmement classique, quoi. Donc d'avoir lu en l'espace de 2 jours, parce que chacun de ces livres se lit en un jour, ces deux bouquins aussi forts pour moi, aussi aboutis, j'étais assez soufflé.
Alors, vous le savez peut-être, Quentin Mouron, entre les lignes, nous accueillons chaque jour un comédien qui vient pour lire la prose de l'auteur que nous recevons. Et alors aujourd'hui, Jean-Michel a choisi de faire autrement, c'est-à-dire qu'il a pensé que ce serait intéressant de vous faire lire à vous votre propre prose. Alors Jean-Michel, à ce stade de l'émission, on a un choix, une alternative. Soit on écoute un extrait du premier roman de Quentin Mouron, soit on écoute le prologue de Notre-Dame de la Merci. C'est vous qui choisissez.
Ah, moi j'aime beaucoup l'extrait du premier roman. C'est d'ailleurs vous qui l'avez choisi. C'est une rencontre amoureuse. Ça ramène aussi à l'âge de Quentin Mouron. C'est une chose très simple et c'est beau comme une chanson.
Alors on écoute cet extrait tiré de Au point de fusion des égouts.
Vous rencontrez une fille qui ne vous plaît pas vraiment, c'est-à-dire dont vous ne vous méfiez pas. Vous n'aimez ni son nez ni ses hanches. Vous la trouvez trop pâle, disgracieuse, son parfum vous écœure, quelque chose d'un peu niais. C'est l'une de ces filles dont vous dites qu'elle est pas mal, baisable, et vous n'y pensez plus. Vous l'auriez croisée le matin qu'elle aurait disparu le soir. Seulement, vous avez commencé à parler. Vous vous êtes dit des choses, des petites choses banales, quelques blagues pour la forme. Elle a quelque chose de léger, d'agréable. Vous discutez encore. Vous concevez peut-être l'idée de l'allonger une fois. Oh, elle est pas belle. Vous dites au copain qu'elle est pas terrible, mais qu'elle vous court après, qu'elle vous fait des avances et que c'est dans la poche. Et les jours passent, et vous vous revoyez. Vous lui avez peut-être écrit, et vous y pensez souvent comme ça, mine de rien. Elle a des défauts, des horribles, qui feraient rire de vous, des trucs qu'on ne pardonne pas. Son nez, ses hanches, trop pâles. Vous y pensez quand même très fort à ses défauts.
il vous passe par les nuits. Son nez mal fait vous hante, ses hanches vous tirent du lit. Vous en perdez le sommeil, ses défauts, ils vous prennent à revers, et vous sentez cette fille vous glisser sous la peau. Vous vous dites pour la forme qu'elle est laide, mais vous n'y croyez plus. Son sourire un peu niais quand vous fermez les yeux, ses hanches vous apparaissent, son nez, vous l'imaginez près de vous. Elle dort, et vous la regardez dormir. Son pyjama orange et vert, ses cheveux en bataille, les ruines d'un sourire tout au coin de ses lèvres, ses mains jointes sous son cou, sur une vieille couverture. C'est l'été, l'émotion, quelque chose. Ça vous coule dans les veines, à flot, vous submerge du dedans. Le cœur vous en dérive, au loin, dans un détroit ignoré. Il vous vient une larme, peut-être deux, et cette fille, son nez, ses hanches, son sourire un peu niais, vous êtes pris.
Eh bien, voilà une description du processus amoureux réduite à une expression concise, crue et néanmoins poétique. C'était donc là un passage tiré de Au point diffusion des égouts. Cette fois, je l'ai dit juste, premier roman de Quentin Mouron, notre invité entre les lignes. Quentin Mouron, dire un texte adressé au public, c'est une expérience que vous avez déjà vécue dans différentes circonstances, éventuellement pendant une rencontre avec des lecteurs dans une librairie?
Il m'est arrivé de lire mes textes. C'est pas quelque chose que j'adore pour la raison assez simple que j'ai horreur d'entendre lire des textes en général. C'est
quelque chose qui est dit. Heureusement qu'on a fait appel à vous alors.
Voilà, non mais ça m'a fait très plaisir. J'aime bien entendre comme ça un comédien, ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'ai une soirée lecture, je m'endors assez vite, pas à cause de forcément de la qualité de celui qui lit, mais plutôt parce que j'ai beaucoup de peine à me concentrer en général. Et donc ça me passe assez vite au-dessus. Alors j'essaye de pas faire subir la même chose à mes lecteurs, mais j'ai quand même eu néanmoins. Je suis allé à Roll il y a pas longtemps pour une lecture. C'était très sympathique. Je le fais quand même volontiers.
Vous avez l'impression que votre écriture se prête bien à l'oralité?
Je crois oui. En tout cas, je crois que moi, c'est vrai que j'utilise l'oralité. Il m'arrive de lire mon texte à haute voix. Je le lis plusieurs fois. J'essaie de regarder ce qui peut éventuellement merder de tel ou tel côté, d'essayer de faire un travail sur le rythme. Donc c'est vrai que je suis quand même assez habitué à me l'entendre dire et je le fais plus ou moins volontiers.
Jean-Michel?
Non, je me disais qu'il faut absolument qu'on parle du livre qui vient de sortir là maintenant.
Ah bah il serait
donc,
temps.
Il serait temps.
Depuis le temps qu'on l'annonce.
Depuis le temps qu'on l'annonce.
Notre-Dame de la Merci.
Notre-Dame de la Merci. Donc, comme je l'ai dit, c'est une petite tragédie à trois personnages. On peut peut-être dire, aidez-moi Quentin, qui sont ces personnages? Il y a d'une part une certaine Odette,
voilà, qui est une revendeuse de cocaïne, anciennement, qui a eu une certaine influence. Anciennement, qui n'en a plus maintenant, qui était affilié à un gang par le biais de son mari. Son mari est mort, elle est seule au village de Notre-Dame de la Merci à revendre sa cocaïne, mais de manière un peu amateur, si j'ose dire.
Le mari est mort d'une mort un peu stupide, il a été renversé par un orignal, c'est ça? On est au Québec.
Oui, il a renversé lui un orignal.
C'est lui qui l'a renversé.
Voilà, il s'est pris une corne, un bois dans le
mal placé.
Corps. Oui, exactement. Puis ensuite, il y a Jean qui est le petit truand sans envergure, sans carrure, qui est pas du tout un grand méchant, qui a pas du tout la stature du méchant. Et puis ensuite Daniel qui est un peu finalement le plus paumé, qui est la grande victime dans tout ça, qui est celui qui aime Odette passionnément, qui est fondamentalement bon et qui se fait renverser et baloter de toutes parts.
Alors, qu'est-ce que vous avez pris de ce que vous connaissez de la tragédie pour écrire ce livre? Parce que la structure, en reprenant ces personnages, c'est Daniel aime Odette, qui aime Jean. Si c'était du Racine, on dirait qui aime Odette. Mais là, c'est qui n'aime personne.
Exactement. Hein?
Donc ça, c'est un élément que vous avez identifié dans la tragédie?
Je connais pas très bien la tragédie grecque, je la connais par oui dire, par Aristote.
Plutôt Racine, ça.
Et ensuite, voilà, la tragédie plus classique, je l'ai lue, on m'a forcé à la lire très vite au gymnase et puis ensuite à l'Uni. Je m'y suis penché aussi par plaisir. C'est vrai que c'est déjà un format qui me plaît bien, qui me permet de vite balayer ça dans le train. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui me plaît au niveau de la construction, de la rigueur. De...
Bah justement, on a dû vous dire au gymnase Quentin Mouron que la tragédie classique observait trois unités, celle de temps, de lieu et d'action, ce qui correspond plus ou moins à Notre-Dame de la Merci. Donc vous faites de la tragédie sans le savoir, peut-être.
Non, j'en étais quand même conscient, disons. Je me rappelle encore de ça. J'ai pas suivi tous les cours, mais j'ai quand même deux, trois notions comme ça, quoique diffuses.
Ouais. Jean-Michel.
Oui, on écoute un extrait.
Très bien. J'annonçais le prologue tout à l'heure. Hein,
alors, le prologue, très intéressant, parce qu'il y a un quatrième personnage, en fait, dans cette histoire. Et ce quatrième personnage, c'est le narrateur. Ce narrateur, c'est lui qui va parler au moment du prologue, un peu comme un coryphée dans une tragédie grecque ou comme un chœur dans une tragédie grecque. Il va faire le lien entre l'action et le lecteur. Il va revenir très souvent dans l'histoire. J'aimerais qu'on parle, on en parlera tout à l'heure, du rôle de ce narrateur coryphée Quentin Mouron, et entendre avant ce prologue où il est question d'un suicide qui ne joue pas un rôle très important dans l'action, mais qui va nous donner le ton, le là de l'histoire.
C'est un matin de novembre. Les premiers flocons tombent sur la forêt québécoise. Le vieux petit a connu l'ennui qui dévore les personnes et les choses, les forêts, et qui balaie la neige. L'ennui silencieux, angoissé, que l'on ne peut pas dire parce que les mots nous manquent et qu'ils nous ont toujours manqué. Les flocons se déposent sur le sommet des arbres, ils y prennent goût, c'est l'hiver qui s'installe. Et la chambre pâlissante du vieillard, qui a mis ses habits du dimanche. Le vent siffle par une fenêtre ouverte et par la cheminée. La voiture est couverte de neige. Les poètes disent que c'est un voile ou un linceul. Le vieux potier balance, le froid lui est entré dans le corps. À travers ses habits du dimanche, les tissus, jusqu'à l'os, à travers tous les remparts de l'existence. Il faut avoir connu un hiver québécois pour connaître l'hiver, une tempête de 3 jours, et la nuit, quand les lignes à haute tension s'affaissent sous le poids de la neige. Il faut avoir roulé sur les routes noires de glace, il faut avoir entendu tous les arbres craquer et se tordre de froid. Le vieux potier avait été un ouvrier des ponts. Il avait eu une femme qui buvait beaucoup. Il lui avait cogné dessus, ils avaient eu un premier fils, Jean, et puis d'autres enfants. Elle était devenue laide, lui avait grossi. Ils étaient venus se fixer au bord du lac en Croix, au nord, dans la commune de Notre-Dame de la Merci. Il avait pêché, elle avait tricoté, et puis elle était morte, et il la pleurait. La neige tombe et couvre tout. À Tchertsé, un camion a percuté un pylône. Les maisons se sont éteintes. Le vieux petit balance, attaché par le cou à une poutre apparente. Il aurait pu laisser un mot, il aurait bien voulu, mais il n'a pas su qu'écrire, à quoi bon. Le silence vaut mieux, les tourbillons de neige. Les suicides, c'est curieux comme ça vous prend au moelle, comme ça s'y colle, que ça palpite au fond. J'ai connu des suicidés, qui tous m'adressent des reproches, des pointes, de surface, affleurant le brouillard. Souvent dans la tempête, vous cherchez ceux qui manquent, que vous avez perdus, et vous les appelez, qu'ils reviennent, revenez! Mais ils sont déjà loin, derrière la neige. Ils ont trop froid, ils disparaissent. J'ai connu quelques-uns de ces crieurs de l'ombre, qui n'avaient jamais rien vraiment su dire, mais qui avaient crié quand même. S'ils sont morts, c'est de leur faute, bien sûr. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin à ce stade du récit, s'il vaut pas mieux s'arrêter, prendre le temps d'enterrer le vieux potier, n'en dire pas plus que le silence. Vous laissez là, avec vos frémissements intimes, pourquoi pas. Il y a d'autres livres, partant d'autres auteurs. Les instants seuls ne se substituent pas.
Elle est étonnante, Quentin Mouron, cette dernière phrase, enfin cette phrase qui appartient au dernier paragraphe de ce prologue à Notre-Dame de la Merci. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin, à ce stade du récit, s'il vaut mieux pas s'arrêter. Comme si d'entrée de jeu, votre narrateur, qui peut-être vous ressemble un peu quand même, s'interrogeait sur le bien fondé et la nécessité de poursuivre son récit.
Pour le coup, c'est pas une construction. Je me suis effectivement demandé, arrivé à ce stade du récit, s'il valait pas mieux, si c'était pas mieux d'en faire un court texte et de le balancer sur mon site internet, ou s'il fallait vraiment en faire un roman et donner vie aux personnages qui m'étaient déjà apparus au moment d'écrire ce prologue, et en me disant, bah finalement, est-ce que là tout n'est pas dit? Et j'ai répondu par la négative, puisque j'ai encore écrit la suite.
Il y avait encore des choses à dire.
Voilà, exactement. Mmh.
Jean-Michel.
Oui, moi je crois que c'est ça qui est souvent, qui fait la force là de cette écriture. C'est que, assez spontanément, des trucs lui passent par la tête et il les intègre. Et en fait, ça paraît extrêmement construit, extrêmement efficace. Là, l'exemple qui est donné, ça paraît un effet de construction. Très efficace, quoi. On donne la note, ça pourrait être au cinéma, ça pourrait être la première scène, quoi.
C'est la première fois.
C'est un prologue.
Ouais.
Oui. Première fois que.
Que le jeu apparaît dans ce texte.
Oui, parce que c'est là que le livre commence.
Oui.
Et donc c'est un prologue à partir duquel l'histoire peut se dérouler. Et vous venez de nous expliquer, Quentin, que vous avez pensé vraiment vous arrêter. Et moi, je trouve que il y a plein de disruptions de ce narrateur qui fait des commentaires, qui digresse à l'intérieur de son histoire, qui se demande si ceci, si cela, qui... Et je crois qu'on est chaque fois un peu dans ces eaux-là. Et ce qui en fait la force, c'est que c'est jamais sentencieux. C'est jamais un effet de « je vais jouer au coryphée de la tragédie grecque ».
Au narrateur omniscient.
Au narrateur omniscient, ou alors jouer à la tragédie grecque, que je vais faire le rôle du cœur, Mais c'est Quentin Mouron qui, quand il veut, reprend la parole et inscrit son histoire à l'intérieur de quelque chose qui nous lie à lui et à l'histoire.
C'est vraiment Quentin Mouron ou c'est un narrateur?
Je pense que là, c'est vraiment Quentin Mouron dans le sens où c'était, comme vient de le dire Jean-Michel Meyer, très spontané. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'ai pas fait de plan. Donc, il n'y a pas eu de, je me suis pas dit à tel moment, telle chose va arriver, le narrateur va revenir en mettre une couche. C'était pas du tout mon but. J'écrivais, tout d'un coup, je me disais, mais tiens, il y a quelque chose à préciser, mais pas de manière traditionnelle, il faut revenir en jeu. Ou alors, je me disais, mais tiens, là, est-ce que j'ai pas fait une erreur dans ce que je viens de dire? Donc, plutôt que d'aller gommer ce que je venais de faire, j'ai préféré émettre un doute en jeu par la voix du narrateur. Oui.
Et puis, cette idée qui est, je pense, à la fois très sincère, mais qui peut paraître aussi très roublarde, et que vous répétez à plusieurs endroits, qui est de savoir que la réalité, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus... Que ce qu'on peut en faire dans un livre et qu'un livre n'est qu'un aménagement, une manière de rendre la liberté digeste. Mais moi, je suis pas écrivain, alors je vais vous lire là. Notre-Dame de la Merci est un choix tout à fait arbitraire. Le Québec aussi, le nouveau continent. Je vous invite à ouvrir vos volets, à regarder si en face, par hasard, il se passe la même chose. Si mon livre n'est un commentaire, si mon livre n'est pas ce que vous voyez chez la voisine qui pleure, chez le voisin qui boit, avec en plus les ruses et les lauriers de l'art. Les villes sont pavées de faits divers, et les pavés sont anonymes et se ressemblent. On leur marche dessus sans plus s'en rendre compte. Peut-être qu'ils aimeraient se déceler, grandir, vous tendre un croquant-jambe que vous vous étaliez. Sans doute qu'ils aimeraient vous forcer à les voir. Les pavés des villes crient, l'évidence qu'on évite. Et on achète des romans où tout est mieux écrit, où tout sent moins mauvais, mais il y a beaucoup plus d'histoires qu'il n'y a de lecteurs.
Ouais. Je pense que c'est le paradoxe de du 19e siècle, de la dame bien habillée qui lit Balzac sur son petit sofa dans son boudoir. Je pense que c'est vraiment ça, de voir qui est le public d'un livre et qui est le sujet de ce livre. Donc je pense qu'il y a toujours déjà une dissension, un hiatus entre les deux. Et puis aussi, bon, je m'inscris en faux contre une opinion un peu trop répandue et qui est, à mon avis, de la fausse modestie, de mauvais aloi, qui est de se dire, au fond, on sépare le livre de la vie c'est plus qu'un livre, c'est pas tout à fait ce que j'aimerais exprimer. Pour moi, la lecture et l'écriture fait partie de la vie, est ancrée dans ce qu'on appelle la vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut penser que... Ouais. Je pense que le roman a une certaine fonction, peut être un déclencheur pour certains choix existentiels ou certains choix pratiques, mais en aucun cas, je pense qu'il faut penser que la vraie vie est dépeinte, enfin que la vie est dépeinte dans un roman, c'en est une parcelle qui s'intègre dans le tout, mais c'en
et
est
vous
pas
nous
une...
le rappelez tout le temps que ce n'est qu'un roman. Il y a une espèce d'effet de distanciation, comme on dirait au théâtre. Je crois que c'est dans le livre précédent que vous dites à un endroit. Ouais, mais là, ce n'est qu'un livre. Je voudrais pas qu'on mouille les pages. Enfin, il y a de l'humour.
Mais en même temps, vous nous dites, on l'a entendu dans l'extrait lu à l'instant par Jean-Michel, ouvrez vos volets et les personnages que je décris dans ce
ils
roman,
sont là.
Vous les connaissez, c'est vos voisins, c'est ça?
Absolument.
Alors Jean-Michel, à propos de personnages justement, on parlait tout à l'heure d'Odette, cette petite dileuse un peu minable. On va entendre là un extrait
oui,
concernant
Odette.
On va
savoir qu'elle a eu une enfance.
Odette a quand même eu, je crois, une enfance romanesque, heureuse, des rêves d'enfant, c'est-à-dire des rêves qu'on peut réaliser, que ce n'est pas trop tard. L'avenir, le vrai, c'est le propre de l'enfance, la perspective d'une vie devant soi. Après, un jour, on se réveille adulte. Et on sait qu'on est adulte, parce que le présent nous rend l'avenir hideux à voir, qu'il le déforme. À partir de quel moment ça a mal tourné? Je ne sais pas exactement. Je sais exactement pour moi, pas pour Odette. J'ai essayé de l'imaginer enfant, pimpante, rieuse, moins maigre et moins droguée, avec des histoires de princes charmants et de poupées, mais aussi peut-être des pensées angoissées. L'enfance est très sérieuse. Ce qu'ont été ses rêves, ce qu'ils sont devenus, à quel moment tout son cœur s'est froissé? Je lui ai posé ces questions de manière détournée, et elle m'a répondu elle aussi de manière détournée. Elle m'a dit qu'elle préférait ne pas en parler. Alors, du malaise qu'a provoqué un tel souvenir, j'ai déduit le gouffre entre les deux époques. Odette M, une amourette d'après veuvage qui a gonflé en tragédie. Elle aime Jean, le fils du vieux potier.
La contrebasse de Yves Massy, entre les lignes sur Espace 2, c'était tout à l'heure lu par l'auteur un passage de Notre-Dame de la Merci, deuxième roman de Quentin Mouron, paru aux éditions Olivier Moratel. Quentin Mouron est notre invité aujourd'hui pour parler de ce deuxième roman très apprécié déjà par la critique. On en parle beaucoup, on l'a dit, en radio, en télévision. Moi, ce que j'entends dans ce texte qu'on a découvert quand à Mourant à l'instant, c'est une véritable empathie pour vos personnages. Des personnages que vous appelez des crieurs muets, des écroulés, que ce soit Odette ou Daniel, dont on va parler dans un instant. Et d'ailleurs, le mot empathie, c'est vous qui l'employez.
Je pense en effet, il y a une dimension empathique. J'étais habitué à regarder plusieurs gens très différents, plusieurs personnes, j'ai vécu dans plusieurs pays différents. Et puis aussi, il faut le dire, ces personnages-là ne sont pas très loin de moi. Je ne les ai pas créés comme des étrangers à moi-même. Donc je retrouve et chez Jean, et chez Odette, et chez Daniel, des éléments qui sont Quentin Mouron. Et c'est aussi par rapport à moi-même que j'ai une certaine empathie, une certaine pitié peut-être, je pense pas de condescendance, mais au moins une certaine pitié au sens peut-être plus chrétien du terme, mais pas au sens plus moderne qui est méprisant.
C'est une auto-empathie.
Voilà, exactement.
Jean-Michel. Mm-hmm.
Vous savez, j'ose la question, vous savez quand ça a mal tourné pour vous?
Est-ce que je peux dater précisément? Non, je crois que ça... Enfin oui, je pourrais, mais je n'ai pas envie de le faire.
Non, mais c'est une question très intime et très subtile. C'est parce que vous, hein, dans ce qu'on vient d'entendre, vous dites, je le rappelle, vous dites, je ne sais pas pour quand ça a mal tourné pour elle. Pour moi, oui. Alors je me dis, est-ce que c'est une posture de narrateur? Ou est-ce que vous dites quelque chose, là, vraiment, que peut-être vous ne pouvez pas dire au micro, parce qu'on n'est pas obligé de parler de tous ces traumatismes
Bon, je peux le dire,
allons-y, non,
je pense que c'est pas si inquiétant. Je pense que c'est vraiment au moment où j'ai commencé à aimer de manière unilatérale, c'est-à-dire sans retour. Donc là, je pense que ça a été vraiment le point de départ. Après, on pourrait citer 2-3 épisodes plus ou moins scabreux. C'est pas forcément nécessaire, mais enfin, je pense que c'est vraiment cette base-là qui sert de. Au fond, d'étalons pour tous les personnages, que ce soit pour Odette ou pour Daniel.
L'amour sans retour, c'est un terme qui est prononcé d'ailleurs dans ce livre, c'est une constante dans votre premier ou votre deuxième roman. Ces deux êtres, Odette et Daniel, aiment sans retour.
Exactement.
Ça a été aussi votre cas, on l'apprend au détour d'une ligne du narrateur. Vous dites quelque part, ou votre narrateur dit quelque part, qu'il a écrit son premier roman sous l'impulsion amoureuse, sous l'effusion amoureuse.
Exactement. Oui, exactement, ça a été le
Et le retour n'est jamais venu.
Non, toujours pas. Peut-être faudra encore écouler quelques milliers d'exemplaires.
Un non-retour bienvenu, puisque du coup, vous êtes devenu écrivain.
Oui, pour ça, c'est vrai que je remercie ces personnes. Non, finalement, je suis très content. Je crois que c'est pas si mal. Finalement, ça m'a donné l'impulsion. Peut-être pour un troisième livre, je vais pas encore renchérir, disons, sur ce thème éternel.
Les choisit, les thèmes? Ou est-ce que c'est eux qui vous choisissent?
Là, c'est vrai qu'ils sont plutôt imposés. Alors, j'aurais peut-être pu faire autrement et puis raconter l'histoire de je sais pas qui. Mais là, c'est vrai que c'est venu un peu violemment.
Si on résume tout ça, vous avez mal tourné au moment où vous avez commencé à écrire.
Oui, je crois. Voilà. Je crois que pour les raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire n'étaient peut-être pas aussi pures que celles qu'on peut s'attendre. On pense souvent, on est pris par les anges ou je sais pas quelle bêtise.
L'inspiration divine.
Partout. Voilà, l'inspiration divine. Pour moi, c'était un peu plus matériel. C'était d'une part une fille, et puis en plus que j'aimais aussi très physiquement. Enfin, c'était sur elle aussi une paire. Enfin bref, elle était quand même. C'était pas seulement quelque chose d'angélique. Et puis il y avait aussi après.
C'était charnel. C'est ça que vous nous dites.
Voilà, merci, le terme me manquait. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tout le côté démonstration, montrer qu'on est capable d'être plus que ce qu'on dit de soi, c'est-à-dire d'écrire un livre, de le porter.
Jean-Michel,
je ne sais pas.
Non. Bah alors, si on en venait à Daniel.
Si on en venait à Daniel. Hein, alors, Daniel, c'est le bon gars. Hein, c'est celui qui n'a rien fait de mal, qui transporte la neige, que tout le monde méprise.
Daniel a promis à Odette qu'il viendrait. C'est le déneigeur du village. L'un de ces pauvres types qui se lève tôt et se couche tard, et qui gagne rien. Tous les matins sur les routes, des 5 heures en hiver et des moins 30, des moins 35, la route vous glisse. Vous passez une maison après l'autre, les chalets, poussez la neige, un tas par-ci, un tas par-là. Le soir, vous rentrez vanné, fini. La neige est lourde, avec ça tous les cons qui se plaignent. Veulent plutôt leur taille, sinon, non, plus loin de la fenêtre, obstruez pas la vue, et aussi qu'ils se plaignent du retard, qu'ils ont dû faire eux-mêmes, commencer à la main. Ajoutez encore les tout à fait désaxés, les fous, qui s'exhibent, les violents, les bigots. Odette ne l'aime pas, c'est un crétin. Au village, on dit d'ailleurs que c'est un crétin. Mais Daniel est dévoué, elle sait qu'elle peut compter sur lui, qu'à toute heure il viendra. Et ça lui fait plaisir, ça la rehausse, pas beaucoup. On conçoit de la haine d'être adulé par des crétins quand ceux qu'on aime, eux, nous méprisent. Je sais ce que ça fait d'avoir des inconnus qui vous mitraillent de fleurs quand le cœur que vous voulez toucher reste obstinément clos. Quand pour mon premier roman, mon éditeur m'a dit que ça y est, tu peux balancer les invitations, j'ai aussitôt créé un événement Facebook auquel étaient conviées plus de 500 personnes. J'ai dû m'avouer que je n'en invitais au fond qu'une seule, et qu'elle ne m'a jamais répondu.
Oui, donc c'est à ce passage précisément, qui est d'ailleurs répété une fois encore, où vous citez justement cet amour déçu, cet amour sans retour quand un mouron, qui a déclenché une vocation d'écrivain pour vous, Jean-Michel.
Oui, mais j'aimerais en revenir à la facilité et à l'effort. Cette manière d'arriver comme ça, de débarquer avec Facebook dans une histoire... C'est-à-dire de parler de soi, tout à coup, de débouler avec soi. La seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, il faut dire que Jean-Louis Kuffer signe une très jolie postface à Notre-Dame de la Merci, où il parle justement de ce thème de l'amour sans retour qu'il identifie. Il dit de très belles choses. Et il dit aussi que vous êtes toujours là, présent, comme il vous compare à Hitchcock dans les films d'Hitchcock. On le voit toujours quelque part. Mais Hitchcock, Hitchcock, c'est 3 secondes. Il faut vraiment chercher. Vous, c'est pas 3 secondes. Même dans ce livre-là, où vous n'êtes pas le sujet, où l'action se fait quelque part sans vous, vous en êtes l'observateur, comme dans Fenêtre sur cour. Mais dans Fenêtre sur cour, c'est pas Hitchcock qui a la jambe dans le plâtre, c'est un personnage qui est extrêmement actif. Et vous, vous déboulez constamment dans l'action. Et ça, j'aimerais savoir, ça me donne à moi, lecteur, le sentiment d'une grande liberté d'écrivain. Et si j'ai envie de dire ça maintenant, je le dis, c'est en rapport, mes digressions, je les fais, et ça marche. Donc j'aimerais savoir comment vous faites ça.
Bon, je pense que je suis quand même assez prétentieux, j'essaye de l'être du moins, donc je pense qu'il y a quand même cette notion, cette envie de revenir chaque fois, se mettre en avant, se remettre sous les projecteurs encore une fois, même si on est au fond du Québec et qu'on parle de 3 types qu'au fond j'aurais pu ne pas connaître. Donc je pense qu'il y a cette envie-là déjà d'être au premier plan, et puis ça vient aussi, je pense, d'une liberté que j'ai acquise... Une liberté, déjà, quand je parle, je me sens jamais très entravé. Quand j'écris, j'essaye de l'être le moins possible. C'est difficile, c'est différent. Mais j'essaye quand même de faire ressentir quelque chose d'assez libre. Et puis encore un troisième élément qui est celui de la proximité des thèmes qui, à mon avis, doit dépasser la proximité des récits. C'est-à-dire que là, on a en effet ces 3 personnages et qu'on peut additionner à ma vie privée, à ma vie intime. Mais en même temps, il y a une grande proximité entre ces deux vies, entre ce que ressent Daniel et ce que moi j'ai ressenti. Il y a quelque chose qui dépasse finalement les divergences des actions. Donc là, je pense que c'est l'occasion de regrouper, de se retrouver et puis de se dire, finalement, on vit la même chose.
Alors, on a parlé d'Odette, la petite dealeuse. On a parlé de Daniel, ce personnage très touchant des neigeurs. On a encore peu parlé de Jean. Alors lui, c'est un personnage totalement antipathique envers lequel ni vous, le narrateur, l'auteur, Quentin Mouron, ni nous, les lecteurs, ne faisons preuve d'empathie. C'est une fripouille, en gros.
Quoique, vous allez voir.
Et Jean-Michel, justement, vous vouliez nous lire un passage.
Oui, parce qu'on a oublié d'enregistrer un passage concernant Jean, donc je vais me faire un plaisir de
comme
lire
ça, ce passage.
Comme
ça, la triade sera bouclée.
Exactement. Quand Jean Potier a trouvé son père, le matin, il lui a fait les poches. Le vieux avait la langue dehors, les yeux énormes, le visage noir. Jean a pris sa montre en or et un billet de 20 dollars. Il est allé ensuite au buffet du salon. La clé manquait. Il l'aurait forcé, mais la police allait venir, ses frères et sœurs ensuite, ça se remarquerait. Et si on le soupçonnait, si on disait que c'était lui qui l'avait suspendu, lui qui n'avait rien fait, c'était vraiment con. Tant pis pour le buffet. Et puis, ce serait mieux comme ça, plus digne. Sa conscience se plaquait sur le fait. Il est allé au bar pour une goutte de whisky. S'il devait appeler la police, certainement, mais Daniel devait venir avec la cocaïne. Alors si les flics étaient là, Daniel repartirait sûrement, et s'ils n'étaient pas là, il lui dirait de repartir. Voilà qui était clair. Ça lui semblait sans risque, bien pesé, ficelé comme il fallait. Alors, il a appelé la police, qui serait là dans 2 bonnes heures, avec la tempête. Il devait attendre, et il avait le temps. Il repensait à tout ça, son vieux père, et il s'est senti triste. Je n'ai jamais eu de sympathie pour Jean. J'ai eu des embrouilles avec lui. Il ressemble au méchant dans les films, mais avec quelque chose en moins, une pointe comique, un soupçon d'impuissance. Sa diablerie est dépensée en pure perte dans le nord québécois, la forêt, à Notre-Dame de la Merci, les enveloppes de coke. Celui qu'on verrait grand bandit assassin n'est finalement qu'un moindre ivrogne, un peu drogué, cogneur de femmes. Il n'a pas la passion du grand délit, l'ambition, le sang lui manque aux veines. Quelquefois, il élabore un plan, il va sur le terrain, peut-être même qu'il consigne quelques notes, mais la paresse le prend, les brumes, et il retourne s'étendre. Enfant, déjà, il avait en tête des projets fantasques. C'était une cabane dans les arbres qu'il accolait au ciel, le rôle de chef du monde qu'il promettait d'avoir, quelques vols aussi dans les supermarchés, au Toys R Us de la grande ville. Mais il finissait toujours par faire ce que font les autres enfants, ni plus ni moins. Il s'envolait par la pensée, d'action... Il était ordinaire.
Pour donner une résonance à votre prose tirée de Notre-Dame de la Merci, Quentin Mouron, Jean-Michel a choisi une musique que vous connaissez bien. Dites-nous qui est au clavier, c'est ce qu'on entend.
C'est un compositeur lausannois, Sylvain Papoteau, qui est à peine plus âgé que moi, qui est un ami de longue date, qui a très tôt lu mes textes et qui m'en a donné son ressenti d'une part par la parole, mais aussi par le biais de son piano. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble et on est sur un projet qui est encore très diffus, mais qui est quand même qui avance tranquillement. Et donc il y a vraiment ce désir de marier la musique et le texte. Et puis c'est un compositeur de grand talent.
Dans la rythmique, dans les couleurs, cette musique semble convenir à votre prose, à votre écriture?
Oui, absolument. Et puis je pense que mon écriture convient également à ses compositions, à son travail. Donc on a quelque chose, je pense vraiment une grande proximité humaine et artistique.
Je le rappelle, Quentin Mouron, vous êtes notre invité aujourd'hui, encore pour quelques minutes, entre les lignes, pour parler de votre deuxième roman. J'ai bien dit que ce n'était pas le second, c'est-à-dire qu'on en attend un troisième. Il est intitulé Notre-Dame de la Merci et publié chez Olivier Moratel. Et nous vous invitons, nous conversons avec vous, avec Jean-Michel Meyer.
Nous conversons ensemble, donc.
Nous conversons à trois, c'est une trilogie, c'est une triade, c'est un triangle, Jean-Michel.
Alors, écoutez, moi, ce à quoi je pensais là maintenant, c'est un peu toujours à la même chose, c'est à cette fonction particulière de ce commentateur qui apparaît dans ce livre. Ça me fait penser un peu au théâtre, ou au théâtre de marionnettes, quoi. Comme si vous étiez le montreur d'une histoire. Comme si, vous savez, on dit, comme si vous mettiez d'une certaine manière l'histoire à distance. On parle en théâtre de distanciation, et on dit, par exemple, dans la tradition de Brecht, qu'il n'y a pas de quatrième mur, qu'on s'adresse directement au spectateur. C'est un peu ce que vous faites, me semble-t-il, dans le livre. Une adresse constante et le rappel toujours que c'est une histoire. Et à travers les digressions et les commentaires, le rappel que cette histoire, en fait, est comme presque un prétexte à parler de l'homme. Moi, c'est comme ça que je le ressens.
Alors, il m'est pas arrivé souvent de mettre les pieds dans un théâtre. Par contre, il y a vraiment, je pense, en effet, cette volonté de prendre à partie le spectateur et de lui dire « Amuse-toi pas trop sur mon roman, maintenant c'est aussi sérieux et on n'est pas seulement dans le romanesque ». C'est aussi cette manière-là de tirer le lecteur des charmes de l'écriture et de l'interpeller directement de manière très crue et comme le ferait un brûlot ou un pamphlet politique.
Jean-Michel, on a le temps d'écouter un dernier texte tiré de Notre-Dame de la Merci. Quelques mots.
Qui montre bien ça, justement, parce que là, on est dans le commentaire. Il n'y a plus d'action. Et le narrateur nous dit qu'il y a une église à Notre-Dame de la Merci, mais qu'elle est vide.
Il y a une église à Notre-Dame de la Merci, une grande église, à côté de l'école. Je ne suis jamais entré à l'intérieur. Je n'y ai jamais vu ni Jean, ni Odette, ni Daniel. Odette dit que Dieu fasse ses affaires et je ferai les miennes. Daniel allait à l'église quand il était gamin avec sa mère, mais son père était jaloux du prêtre, de Dieu aussi. Alors il a dit « N'y va plus !» et il n'y est plus allé. Jean ne s'est jamais senti à l'aise dans une église. Et moi, je n'y entre plus, comme je n'entre plus dans les écoles ou dans les crèches, parce que je n'ai rien à y faire. Il y a un siècle, les pauvres pouvaient prier. On les laissait tranquilles. Mais les pauvres ne sont plus dupes. Ils veulent être lucides. Ils savent que Dieu n'existe pas. Parce que sinon, disent-ils, ils ne laisseraient pas faire ça. Parce qu'on peut bien leur dire que ces décrets leur sont cachés. Ils n'y croient pas. Ils ont confusément l'impression que tout est une embrouille. Ils respirent l'air du temps, mais ils ne savent pas quoi en faire. S'il faut se réjouir, s'il faut pleurer, alors ils oublient. Ils condamnent le ciel, comme on fait d'une fenêtre qui ne donne plus nulle part. Mais le jour du ciel finit par leur manquer, son éclairage, ils ne se comprennent plus, ne savent plus qui ils sont. Les choses autour, quand ils y pensent, n'ont pas de sens. Pourquoi est-ce qu'ils s'échinent? Pourquoi est-ce qu'ils s'agitent encore? Pourquoi ne pas faire ce qu'ils veulent? Qui les retient? Car ils voient bien qu'on les retient, qu'on les astreint. Certains poussent plus loin, ils se révoltent. D'autres y voient le signe de la fatalité, un poids terrestre, une fatalité qui n'est pas écrite dans un grand livre, avec des lettres d'or, mais une fatalité de poussière et de boue qu'ils n'arrivent pas à démêler. D'autres encore savent qu'en congédiant Dieu, ils ont dit non à la raison, ils s'en arrangent, ils cessent de pondérer, ils sont indifférents. On dit qu'ils déraisonnent, Et c'est qu'en effet, ils n'ont plus leur raison.
Dans ce passage, comme dans d'autres digressions qu'on trouve dans Notre-Dame de la Merci, Quentin Mouron, il est donc question de fatalité, de déterminisme, d'absence de liberté. Donc ça, ça touche vraiment vos personnages. Par contre, vous nous l'avez dit plusieurs fois, vous en tant qu'auteur, vous vous sentez d'une totale liberté, comme si vous n'étiez pas sous le poids de ce fatum qui touche vos personnages.
Oui, je pense que c'est la même, peut-être la seule manière de restituer une forme de déterminisme, c'est précisément d'être libre en amont et de pouvoir composer de la manière dont on le souhaite. Et je pense que c'est un peu le paradoxe que j'essaye de rendre, mais toujours sur le régime du doute, parce que précisément j'en sais rien, c'est de savoir à quel moment on peut penser qu'il y a une coexistence entre un élément libre et un élément déterminé. C'est à mon avis la grande difficulté, ça date pas d'aujourd'hui, c'est savoir quelle est la part de nécessité et la part de contingence. Et je crois que c'est, en effet, il y a un paradoxe criant entre ce narrateur qui s'affiche comme parfaitement libre et ces personnages qui ont l'air d'être dans un engrenage terrifiant.
Parce qu'il n'est libre que parce qu'il est là, le deus ex machina, et qu'il est dans cette posture de romancier, sinon vous n'êtes pas plus libre qu'un autre.
Voilà, exactement. Égards. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il se donne sur une scène fictive, qu'il se donne dans un roman, dans une œuvre. Et c'est là qu'on peut, disons, envisager une liberté sans quoi elle est inexistante ou douteuse.
Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que ces questions, effectivement, vieilles comme l'homme et la philosophie, elles sont traitées avec les mots d'un jeune homme intelligent, mais qui ne cite pas tous les classiques, et avec des mots qui sonnent justes.
Ouais. Et puis un jeune homme intelligent, très ouvert sur le monde. Vous écrivez des romans, Quentin Mouron. Vous écrivez aussi beaucoup sur votre blog qu'on peut trouver sur votre site personnel. Vous avez un regard sur le monde et vous le faites savoir aussi sur l'actualité, par exemple.
Oui, j'essaye un maximum de me tenir informé de ce qui se passe, d'en rendre quelque chose. Alors, je ne me sens pas obligé de restituer l'actualité systématiquement. C'est vraiment quand quelque chose me touche, j'essaye de le resservir. Ça m'a valu toutes sortes, évidemment, d'embrouilles, de menaces et de discussions houleuses, mais j'en suis très content.
Jean-Michel ?
Vous faites un effort pour être prétentieux ou pour ne pas l'être ?
Vous disiez tout à l'heure, j'essaie d'être prétentieux.
Ça dépend de l'interlocuteur. Je crois que ça dépend vraiment de l'interlocuteur.
Vous avez le sentiment d'avoir été prétentieux aujourd'hui face à nous, Jean-Michel et moi-même ?
J'espère pas. Je crois pas que cette fois j'ai pu l'être. Je l'ai été parfois, mais je crois pas aujourd'hui.
Je pense que vous ne l'avez pas été. Je confirme, Quentin Mouron. Merci d'être venu nous parler avec la verve qu'on vous connaît de votre deuxième roman. J'en rappelle une dernière fois le titre, Notre-Dame de la Merci. Il a paru aux éditions Olivier Moratel. Entre les lignes, vous étiez proposé par Jean-Michel Meyer et Jean-Marie Félix. Merci à Jessica Amar qui a assuré la diffusion de cette émission. À Madeleine Teucher, notre précieuse assistante de production. Entre les lignes, tout comme Quentin Mouron possède sa page internet qui vous permettra de réécouter ou télécharger nos émissions, vous vous y rendrez en tapant rts.ch/entre-les-lignes. Demain, avec Annick Schoen, nous recevrons Tahar Benjelloun, auteur d'un récit récemment paru chez Gallimard, Le bonheur conjugal, sacré programme. Et puis après le Flash Info, ce sera Magma, en mode portrait tout au long de cette semaine. Anne Gillot vous proposera un portrait de Marc Ribot. Vous êtes à l'écoute de RTS Espace 2, il est très exactement midi.